Le moment où le club a eu des joueurs professionnels dont le hockey était l'activité principale, c'est sans doute l'arrivée en Ligue nationale A déjà dans les années 90. Faut pas oublier qu'ensuite, le club est retombé en Ligue B puis en Première Ligue. Donc là aussi, il y a eu une déprofessionnalisation sur cet angle-là, si on veut. Ce qui veut pas forcément dire que c'est là que sont donnés les premiers salaires, évidemment pas.
Justement, les premiers salaires, c'est dans le livre également, apparaissent dans les années 80. Ça allait de soi à ce moment-là de payer des joueurs pour exercer une activité entre guillemets ludique?
Bah, ça allait pas de soi. Et c'est pas Charlie Gorba qui a fait le premier pas. Ce sont les joueurs, hein, par l'entremise de Jean-Claude Barras, qui se sont à un moment donné dit non, mais il y a d'autres clubs où les joueurs sont payés. Moi, j'ai des possibilités d'aller jouer ailleurs. On m'offre un salaire. Donc, est-ce possible aussi de nous d'être rémunérés? Donc, en faisant un peu pression, ils y sont arrivés.
À vous entendre, on peut évoquer aussi une forme de professionnalisation au travers de la masse salariale aussi. Est-ce que ça s'est concrétisé aussi dans l'attitude des joueurs? Est-ce qu'on en a attendu davantage à partir des années fin 70, début 80?
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui se met gentiment aussi en place. Les entretiens qu'on a pu avoir avec des joueurs qui ont joué fin des années 70, début des années 80, on sent bien que la préparation des matchs était quand même un tout petit peu moins prise au sérieux. Il y a eu des obligations et le club a mis en place aussi tout un système de contrôle qui était assez informel au début, mais avec des personnes du club qui devaient un peu contrôler le comportement des joueurs et si certains étaient aperçus au relais d'adjoints à l'époque, la veille d'un match, ça pouvait poser problème, il y avait des remontrances.
Parce qu'il y a eu aussi une fameuse histoire d'un verre de blanc ou de plusieurs verres de blanc, racontez-nous.
Jusque dans les années 80, le capitaine de l'équipe, souvent accompagné d'un autre joueur, régulièrement avant les matchs, passait devant le restaurant de l'Ours et puis le patron qui savait que le joueur allait passer par là, déposer un petit verre de blanc. Donc ça faisait une petite halte sympathique dans le footing d'avant-match.
Quentin Tonnerre, on a parlé de régionalisme, aussi d'ancrage régional de ce HC Ajoie. D'un point de vue financier, est-ce que cette taxe régionale, il s'est confirmé aussi? Est-ce que rapidement le HC Ajoie a pu compter sur un soutien financier important des entreprises de la région?
Le HC Ajoie a pu compter très rapidement sur le soutien de FJ Burus, l'entreprise montcourtoise, mais c'est aussi plus concrètement, évidemment, un intérêt financier de la part des entreprises qui voyaient dans la création de ce club eh bien une nouvelle manière de faire de la publicité. C'est dans les années 60 que sur la scène internationale le sport devient très largement médiatisé à la télévision, et donc dans les années 70 on commence à comprendre qu'il y a une visibilité croissante du sport qui peut être intéressant pour les entreprises. La création de la Crosse d'Or du club de soutien est en 85. C'est un moment où plus généralement le hockey suisse connaît une explosion du sponsoring.